Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères et l'invité d'International. Aujourd'hui, nous parlions de l'Iran, d'un accord possible avec notamment Obama. Est-ce que aujourd'hui, avec des élections qui arrivent en Israël, est-ce qu'on peut avoir une nouvelle donne? Vous y croyez, vous, à un changement de politique d'Israël, au fait que ce ne soit pas forcément Netanyahou qui, en quelque sorte, donne le là, on a presque l'impression, à la politique étrangère américaine? Il peut y avoir un changement, une nouvelle donne?
Alors, sur l'Iran, Netanyahou est assez représentatif des inquiétudes israéliennes en général. Le fait qu'il ait été vraiment forcé la main d'Obama d'une façon choquante
presque historique,
au Congrès. Il y a eu d'autres affrontements dans le passé entre Netanyahou et Clinton, par exemple, qui avait des mots très durs contre Netanyahou, par exemple. Enfin, c'était quand même très provocant. Il n'est pas exclu que ce soit bien pris comme étant un acte viril efficace par une partie de l'électorat israélien. Donc, il n'est pas exclu qu'il soit, ça contribue à le faire gagner dans les élections du 17 mars. Toujours compliqué, leur système de représentation proportionnelle. 120 sièges à la Knesset. Les deux blocs sont crédités de 22-23 voix chacun. Donc, il faut des partenaires en plus pour faire la coalition. Sur la question palestinienne, Netanyahou est assez controversé, parce que le Likoud fait tout pour qu'il n'y ait jamais d'État palestinien et tous les prétextes sont bons jusqu'à la fin des temps pour l'empêcher. Donc là, il y a quand même un camp de la paix qui n'est pas organisé en partie, mais qui est puissant en Israël dans l'opinion, qui est potentiellement disponible s'il y avait un président américain décidé, s'il y avait un nouveau rabbin, etc. Mais tout ça n'est pas tellement d'actualité, donc on risque de se retrouver avec Netanyahou, soit le bloc de centre-gauche, soit même une combinaison entre Netanyahou, une grande coalition, et une partie de ce bloc. Sur l'Iran, je crois que ça change pas tellement la position israélienne, mais la question est-ce que la puissance d'Israël aux États-Unis est suffisante pour bloquer la politique américaine en s'appuyant sur le Parti républicain, donc c'est une sorte de droit de veto. Le droit de veto de la droite israélienne sur la politique étrangère américaine, c'est pas exclu, même si ça met en fureur au fond de même beaucoup de responsables américains qui finiront par dire un jour, on assure la sécurité d'Israël, mais il faut qu'ils nous empêchent de régler les problèmes, il faut qu'ils arrêtent de nous empêcher les problèmes. Peut-être que ça surgira un jour. Si Netanyahou est réélu et que c'est une coalition hostile, ça signe quasiment la fin du projet d'État palestinien. Donc les Israéliens.
Car la colonisation se poursuit.
Elle se poursuit intensément sans arrêt, mais ça serait la fin de cette idée qui aurait peut-être été réalisée par Yitzhak Rabin, qui était le grand homme d'Israël des 30 dernières années, peut-être par Sharon, s'il n'avait pas été frappé par un AVC. Mais s'il n'y a plus de perspective sérieuse d'État palestinien, ça veut dire que les Israéliens sont dans le cauchemar que Rabin voulait éviter. C'est-à-dire d'avoir à gérer un seul État au sein duquel les Palestiniens sont majoritaires. C'est exactement ce que le camp de la paix veut éviter depuis 20 ou 30 ans, en réalité. Bon, ça dépend un peu de la coalition de Netanyahou. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Il n'y a pas que l'affaire iranienne. Est-ce qu'ils peuvent empêcher l'accord iranien? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. On ne sait pas encore, en réalité. On peut considérer que les obstacles sont très nombreux, y compris en Iran. Mais Obama le veut vraiment, cet accord, et les perspectives d'avenir sont énormes. Donc, ça reste ouvert.
Je vous posais la question, nous vous posions la question il y a un instant avec Christophe Hayat et Sophie Malibaud de savoir si on parlait notamment à Bachar el-Assad, une question évidemment très différente, de savoir quelle relation on doit avoir avec Poutine. On parle cette fois-ci de la crise en Ukraine, de la situation en Russie où les droits de l'homme ou le droit de l'opposition semble assez malmené. Comment considérez-vous le président Poutine, un homme fort, un démocrate, un tyran? Faut lui parler, faut le sanctionner.
Écoutez, en dépit de l'image qu'a Poutine en Occident, en dépit des événements d'Ukraine, moi je continue à penser qu'il y a eu des torts de part et d'autre dans les 20 années depuis la fin de l'Union soviétique, que je défends absolument pas le nationalisme russe et cette forme de mélange entre une vision régressive de l'orthodoxie, le nationalisme, etc. Bon, et surtout ils ont joué avec le feu. Sur beaucoup de plans, mais je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs occidentales, soit américaines, soit européennes.
Bon. Quelles sont les erreurs des occidentaux?
Alors, les erreurs, d'abord, il y a une question de ton, et moi je l'ai vécu, c'est une désinvolture totale par rapport à la Russie, considérée comme rien, quoi. Après la fin de l'URSS, à partir de 92, une approche idéologique sur le plan économique consistant à penser qu'il fallait vraiment des réformes extrêmement violentes que voulait l'équipe Yeltsin, d'ailleurs, et qui a abouti au fait que les Russes ont perdu 30 à 40% de pouvoir d'achat. avec les réformes ultralibérales, Gaidar et compagnie, mais encouragé par beaucoup de conseillers américains. C'est pas du tout ce qu'on a fait en Europe après la guerre, où pendant 20 à 30 ans, on a eu une économie qui s'est assez finement gérée. Donc là, c'était extrêmement dur. Après, il y a eu les variations et les malentendus, bon, sur l'élargissement de l'OTAN ou pas, et dans le cas de l'élargissement, est-ce que les troupes elles-mêmes avancent et jusqu'où? Après, il y a eu toutes les évolutions américaines sur l'emplacement des sites antimissiles. Normalement anti-missiles iraniens, tout en disant que jamais on permettrait aux Iraniens de les avoir, donc les Russes disaient que c'était contre eux et l'Amérique disait que c'était pas contre eux, donc ça a changé d'un président à l'autre. Ensuite, Obama a tout misé sur Medvedev, en quelque sorte, et depuis que Poutine est revenu, dans des conditions d'ailleurs controversées, on voit que l'Occident est mal à l'aise et mécontent que ce soit nouveau Poutine, qui est plus sur la ligne modernisatrice Pierre Legrand qu'il est au début, mais sur une ligne plus anti-occidentale. Et il y avait une espèce d'atmosphère en Occident, déjà il faut en découdre avec lui, d'autant qu'il y a plein de griefs sur le plan démocratie, droits de l'homme, et que Poutine, qui est sur une ligne très slave maintenant, accumule les déclarations provocatrices pour dire de toute façon vous êtes l'Occident décadent.
Bon. Mais au fond, ces objectifs...
Donc ça, il y a quand même... Oui, c'est de part et d'autre. Mais ça ne disculpe pas en rien. Enfin, bon, ça ne fait pas disparaître la question d'un nationalisme russe outrancier qui exagère dans l'idée qu'il a pour mission de protéger les minorités russes ouais, et qui emploie les procédés qu'on a vus, tout ça. Mais c'est pas noir et blanc, c'est plus compliqué que ça. On ne va pas comparer à l'État islamique et à Daesh. Donc moi, je continue à penser qu'il faut chercher à négocier. Je pense que François Hollande et Mme Merkel ont raison de tenter ce qu'ils tentent. Il aurait fallu le faire plus tôt, mais peut-être que Mme Merkel n'était pas disponible avant. Mm-hmm. C'est très compliqué, c'est périlleux, il faut être très exigeant, mais je pense qu'il faut tenter ça. Et au bout du compte, il y aura toujours la Russie à côté. Et au bout du compte, on aurait pu avoir pire que Poutine, compte tenu de ce qu'ils ont vécu dans ces années-là. Et à un moment ou un autre, à rebâtir une relation Occident-Russie. Et la Russie ne sera pas simplement un caniche ou un paillasson. Donc on est obligé de nous interroger nous-mêmes sur ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire être faible dans les médias. Hein, mais...
Sophie Malibaud.
On part de ce constat. Poutine qui a réagi donc à l'humiliation en quelque sorte. Est-ce qu'il s'adapte en permanence au discours des Européens ou bien est-ce qu'il a un programme à lui?
Il n'a pas un programme de reconstitution de l'URSS. Il n'est pas idiot. Il n'a pas un programme de refaire l'Empire. Mais en revanche...
Il n'a pas le programme d'avoir la main mise sur l'Ukraine par exemple?
Non, je ne crois pas. Je crois pas, mais c'est entre les deux, disons. Ouais. Mais il faut pas le voir comme ayant une sorte de plan fou comme ça. Je ne crois pas.
Vous pensez qu'il réagit uniquement en fonction des Européens?
Non, c'est encore autre chose. Il est aux aguets et il attend l'erreur en face. Mm-hmm. Il l'a fait en Géorgie. Il l'a fait en Ukraine. La décision annoncée, pas appliquée, mais complètement absurde, de suppression de l'autorisation de l'usage de la langue russe dans l'est de l'Ukraine, était une provocation absolument évidente. Il s'est jeté dessus. C'était évident par rapport à ça, plus l'idée que les Russes se font, que la Crimée est évidemment russe. Bon, il y a plein d'éléments comme ça qui auraient dû être canalisés autrement. Dans l'affaire de l'Ukraine, vous m'interrogez sur les erreurs, en tout cas occasions manquées. Même des gens aussi durs à cuire que Kissinger et Brzezinski disaient depuis des années que l'Ukraine devait être un pont. Il ne fallait pas faire basculer l'Ukraine dans un camp en entier, pas plus dans le camp russe non plus. Mais en tout cas, pas dans l'OTAN, mais dans le système d'en face. Donc il fallait fédéraliser, neutraliser, finlandiser. Même Brzezinski dit ça dans les derniers mois. Donc c'est pas du tout ce qui s'est passé par rapport à ça. Donc il y a des erreurs, il y a des occasions manquées. Et alors tout ça a dégénéré dans une sorte de nationalisme russe complètement régressif. Plus les provocations, plus les mensonges et honte, tout ça. Je continue à penser que c'est une impasse préjudiciable à tout le monde sur le continent européen et qu'il faut tenter, même si c'est très dur, d'en sortir.
Et avec des sanctions ou pas?
Alors ça dépend quand et pour combien de temps. Il y a des sanctions aujourd'hui. Ajouter des sanctions maintenant, ça me paraît pas justifié. Je pense qu'il y a une ligne américaine dont il faut se libérer d'une ligne américaine au profit d'une ligne Hollande-Merkel appelée à s'élargir aux Polonais, aux Britanniques, aux Italiens, qui étaient d'ailleurs dans le dernier entretien, une ligne européenne, parce que pour les Américains, ça n'a aucun inconvénient de dire sans arrêt, est-ce qu'elle a des sanctions? Aucun problème pour l'économie américaine. Et donc, il y a une sorte de politique va-et-victis, quoi. Hein? Mais c'est pas une vision d'avenir, ça. Donc il faut qu'on ait notre propre politique européenne, et qui doit pas être une politique faible, hein. Il faut qu'il y ait de la menace, de la fermeté, de la clarté, de la dissuasion, mais aussi de l'ouverture et des projets.
Et de la part de l'OTAN, ce sont aussi des erreurs en cascade?
L'OTAN, c'est rien. Ça dépend de qui décide dans l'OTAN. C'est américain, ça. C'était des positions américaines successives et parfois différentes. Mais je redis, Kissinger et Brzezinski disaient « L'Ukraine ne doit pas être dans l'OTAN ». Même Kissinger et Brzezinski On aurait dû mettre en œuvre ça depuis des années et en plus aider l'Ukraine à être moins mal gérée. C'était encore plus mal géré que la Russie, l'Ukraine, dans les 20 dernières années. Donc il y a quand même il y a quelque chose à construire. Et si on y arrivait, en plus, la Russie pourrait jouer, à mon avis, un rôle pas inutile dans les affaires du Moyen-Orient, où pour le coup, on peut pas négocier. Je peux pas dire sur État islamique ce que je dis sur Poutine. Vous voyez ? Donc c'est pas du même ordre.
Alors peut-être avant qu'on ne passe à votre livre La France défi, où on découvre des propos économiques.
C'est surtout autre chose.
C'est surtout autre chose, j'entends bien. Mais la transition, avec une question que vous n'allez pas aimer, que vous allez détester. Il semble que la politique étrangère actuellement de François Hollande soit plutôt plus populaire que la situation intérieure. Vous portez, vous, un jugement global? Je sais qu'il est très difficile d'y répondre, et pour cause, sans vos successeurs au Quai d'Orsay.
C'est difficile, c'est déplaisant, c'est prétentieux, tout ça.
Donc j'ai c'est moi qui vous pose la question. Allons-y.
Oui, bon, je pense que François Hollande est quelqu'un qui veut ne pas être prisonnier d'un système idéologique, même en politique étrangère, donc qui ne se rattache pas à une école ou à une autre, et qui cherche à trouver des solutions.
Il improvise ?
Non, c'est pas ce que j'ai dit. On l'a vu en Europe. Il cherche des solutions. Et au bout du compte, l'Europe est quand même obligée de bouger en trouvant une meilleure synthèse entre l'assainissement des finances publiques et la croissance malgré tout. Donc il cherche des solutions. On a vu comment il a, en Afrique, il a répondu aux demandes avec clarté, précision, courage même, efficacité. Même si aussi dans le cas du Mali, que la RCA, il cherche avec les trouver une solution politique. Donc il pense qu'il faut pas s'enfermer, en fait, dans des positions trop nettes, trop abstraites, trouver des solutions.
Au risque de perdre en visibilité ?
Ou en
clarté, oui.
Non, parce que tout ça peut s'expliquer très bien. Alors moi, je reconnais que je fais partie de ceux qui sont un peu perplexes sur l'affaire syrienne, entre faire tomber Assad et puis éradiquer l'État islamique. Je reconnais que c'est un peu... Mais c'est pas propre à la France. C'est propre à l'ensemble des Occidentaux. Sur l'Iran, je fais partie de ceux qui comprennent le pari que veut avoir Obama, mais il faut en même temps être très vigilant avec ce régime. Je comprends. Et dans l'affaire de Russie, je note que François Hollande, depuis plusieurs mois maintenant, a l'air de considérer qu'on est dans une impasse préjudiciale à tout le monde. Il faut tenter quelque chose. Ça me paraît assez clair. Ça me paraît... Et on me dit que c'est tout à fait le cas de Laurent Fabius avec le ministre Lavrov. Vous voyez, par rapport à ça. Mais pas forcément un tableau d'ensemble, mais ils essaient de trouver les meilleures solutions possibles.
Non, la France a une diplomatie écoutée en Europe, une armée efficace, mais est-ce qu'on peut peser en Europe durablement avec une économie à plat, avec une croissance proche de, on ne va pas dire zéro, mais 1%, avec...
C'est une vraie question.
Sans dynamisme économique.
C'est une vraie question. Pendant très longtemps, moi j'ai consacré une partie de ma vie à la politique étrangère. Et pendant très longtemps, cette question ne se posait pas. On pouvait l'écarter. En disant non, la France est là quoi qu'il arrive.
Parce que ça marchait bien.
Ça marchait quoi qu'il arrive, l'autorité de la France, ce conseil de sécurité, dissuasion, capacité militaire, inventivité diplomatique, tout ça. On est arrivé à un point quand même, sinon j'aurais pas écrit ce petit essai en sortant momentanément de la chaîne politique, où je pense que ça se rejoint. Et on voit de plus en plus, notamment dans le débat européen, mais même un peu ailleurs, que quand la France prétend avoir des solutions sur tout, on entend de plus en plus dire « commencez par mettre de l'ordre chez vous ». Alors, notamment en Europe, où il y a toujours une espèce de jalousie, comme ça. Donc, d'où l'idée que, il faudrait que la France fasse enfin les réformes que à peu près tous les pays développés ont fait, qu'ils soient dans l'euro ou pas, donc c'est pas lié à l'euro, et ça redonnerait encore plus de force à notre point international.
Justement,
qui reste plus grand que ce que les gens croient. Mais vous savez, ça commence à peser maintenant.
Hubert Védine, lorsque l'on vous lit, vous dites la France n'a pas fait ses réformes. C'est pour ça qu'elle est bloquée, système autobloquant, etc.
Autobloquant, et c'est le lien entre politique et médias.
Quelle réforme doit-elle faire? Quelle réforme doit-elle faire, la France?
C'est assez facile, les fameuses réformes.
Elle va dans la bonne direction, par exemple, la loi Macron.
Bien sûr, les pseudo-inquiétudes des frondeurs étaient absolument... c'est des postures. Ouais. Quant à la droite, elle était absurde sur ce sujet. Ils auraient dû dire c'est pas grand-chose, mais enfin, ça va dans la bonne direction, donc on va voter pour, sauf si vos propres amis la vident de tout contenu. Bon, tout ça, c'est des simagrés politiciens, c'est quand même lamentable. Bon, donc, les réformes, elles sont connues, ça a été dit par 50 rapports en France, dans toute l'Europe et partout. Il s'agit de sauver l'État-providence, qui est une nécessité absolue. Hein. Personne ne veut revenir dans un monde à la Zola. Sauver l'État-providence en rendant le poids des dépenses publiques nécessaires à l'État-providence, sécurité sociale, éducation, etc., supportable par les économies. Si on n'y arrive pas, on est obligé d'appliquer une fiscalité qui est asphyxiante et qui met le moteur économique à l'arrêt. Bon, Donc il faut faire ça. Tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait, précisément pour sauver ça. Sauver ça. Mais évidemment, il faut un peu de courage. Schröder, qui a fait ça en Allemagne, a dit...
Il était battu aux élections.
Il l'a fait dans son deuxième mandat. Ouais. Il était battu aux élections, de peu.
Ouais.
Et il dit, il faut quand même 5-6 ans pour que ça porte ses effets positifs. Ouais. Donc, faut le dire à l'avance. Il faut être un peu franc, quoi. Et puis, il faut le faire courageusement et vite. Ça peut se faire.
C'est ce que fait François Hollande actuellement,
dans un début de...
C'est qui commence à faire? 2 ou 3 ans après son élection?
C'est l'orientation de son discours de janvier 2014. Ouais. C'est la mission du gouvernement Valls, etc.
Mais je
dis ça, j'ai l'air de faire le malin, mais je sais que c'est très, très difficile, naturellement. Parce que tout le monde est accroché à ses avantages acquis, qu'ils soient énormes ou minuscules. Et c'est très compliqué. Mais ce qui m'a incité à écrire, c'est que, pour moi, c'est pas simplement une histoire gauche-droite. C'est que c'est une des manifestations du manque de confiance en eux des Français d'aujourd'hui. S'ils avaient plus confiance en eux, s'ils étaient moins pessimistes, s'ils étaient moins sombrés dans une mélancolie complètement injustifiée, ils verraient très bien qu'ils sont capables de faire ces réformes, de les assumer, qu'on se portera mieux après, que c'est préjudiciable pour personne et que ça va nous redonner un élan formidable sur le plan de l'optimisme, sur le plan de la diplomatie, etc. Donc moi je m'attaque à ça plutôt, cette espèce de pessimisme masochiste qui nous paralyse en fait.
Quand vous écriviez ce livre, c'était avant le passage de la loi Macron et vous preniez une sorte de coalition pour la réforme.
Quand vous voyez... Ça, oui. Voilà. Oui, je sais qu'on peut pas aller jusqu'à l'Union nationale, mais une coalition momentanée.
Voilà, cette coalition, ce type de coalition, quand vous voyez la façon dont cette loi est passée, est-ce que vous pensez que c'est encore réalisable ou au contraire, c'est une idée
C'est la démonstration
finalement...
des blocages dont j'ai parlé, oui. Mmh. Oui. Est-ce que c'est une raison pour baisser les bras? Non plus. Donc je dis non, il faut continuer à poser cette question.
Mais qui vous voyez dans cette coalition?
On va pas si on entre dans des questions de noms ou de partis, ça. Bon. Non, c'est un raisonnement de fond. Je pense que comme c'est extrêmement difficile pour la droite, même Sarkozy qui voulait rompre avec tout, n'a fait qu'une petite partie des réformes qu'il voulait faire. C'est vrai qu'il y a eu la crise, mais enfin quand même. La gauche n'a pas été élue pour ça, donc elle est un peu à contre-emploi. Et c'est très cruel de lui demander d'avoir à faire ça. Mm-hmm. Sauf que c'est important pour le pays. Bon. Donc il n'est pas exclu que les idées cheminent et qu'on s'aperçoive que sur les grands sujets, comme on réforme intelligemment le chômage, les retraites, la sécurité sociale, l'éducation, plein de trucs, il n'est pas exclu que on voit qu'une partie des oppositions droite-gauche sont factices, qu'il y a d'autres clivages, mais que sur 2 ou 3 points clés, on pourrait les débloquer par un accord momentané.
Alors est-ce qu'il faut faire une grande coalition comme les Allemands?
L'Allemande, par exemple.
Non, parce qu'il faudrait une histoire différente, mentalité différente, constitution, loi électorale, etc. D'ailleurs, dans la plupart des pays d'Europe, il y a des coalitions. Les pays qui ont fait des grandes réformes que je cite, comme la Suède, par exemple, c'était droite-gauche, mais alternativement.
Bon. Il faut
trouver un cheminement malgré tout.
Vous avez refusé de travailler avec Sarkozy, par exemple?
Oui, mais c'est pour d'autres raisons. C'est parce que j'étais pas d'accord avec sa ligne de fond, et puis qu'il y avait, c'était pas dans le cadre d'un accord. Il cherchait des ralliements individuels. Ça n'avait pas de sens, vous voyez. Donc c'est tout à fait autre chose, en fait. Il me semble que l'opinion, alors là vous avez parlé des blocages, vous avez raison, la façon dont les péripéties sur la loi Macron, mais il me semble que l'opinion est assez disponible pour cette idée. Et grande enquête après grande. Il y a une sorte d'attente de ça. Ça dépend comment c'est formulé.
Regardez
l'écologisation sur 20 ou 30 ans. Il ne devrait y avoir aucun désaccord. En tout cas, pas droite-gauche. C'est absurde. Une gestion raisonnable par quota, co-géré, avec les pays de départ, de l'immigration, tout ça. Il ne devrait pas y avoir de désaccord. Il y a plein de sujets où les désaccords sont artificiels. Donc il faut réussir à casser ça. Début de mandat, crise aiguë. Ou courage particulier à un moment donné des protagonistes pour engager sur tel ou tel point, etc.
Mais l'opinion, elle est paradoxale, parce qu'elle est d'accord avec les réformes, elle est prête à faire des sacrifices, et puis, en même temps, on voit aussi qu'elle est tout à fait mûre pour voter Front National. Elle l'a déjà fait aux européennes, elle va probablement le faire aux départementales.
Première formation politique, disent les sondages.
Première force, disons. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas se tromper sur le Front National, que c'est une sorte de parti qui rassemble l'ensemble des gens qui sont mécontents de tout. Il y a beaucoup d'anciens électeurs communistes, par exemple. Il y a beaucoup d'anciens abstentionnistes, des gens qui ont voté un peu tout et n'importe quoi. Donc c'est un parti protestataire, ça ressemble plus à la coalition de Griot, là, en Italie. Et de toute façon, là-dessus, je dois le dire par franchise, moi je n'ai jamais cru, depuis 30 ans, que la condamnation moralisatrice du Front National fonctionnerait. La diabolisation, j'ai jamais cru. J'ai toujours pensé que l'analogie avec les années 30, le fascisme, était infondée. politiquement, historiquement, sociologiquement, c'était pas du tout ça. Et on pensait que la seule bonne réponse, c'était la ringardisation. Genre, vous dites ça parce que vous souffrez, on peut comprendre, mais de toute façon, les solutions sont absurdes, absurdes, inapplicables, etc. Mm-hmm. Mais c'était tellement commode pour les élites en général de condamner l'abattimonde qui revient, qu'à mon avis, ça a un peu dispensé de réfléchir à des vraies réponses plus efficaces. Donc ça ne contredit pas forcément le fait qu'il y ait des tas de gars qui votent Front National comme ça dans des moments de fureur, d'excitation, parce qu'ils croient encore dans la politique. Ils croient encore que c'est utile d'exaspérer les élites. Sinon, ils s'abstiendraient. Bon. Donc, ils croient encore dans quelque chose. Ça ne veut pas dire que ces gens-là soient complètement hostiles à des réformes qui seraient honnêtement présentées, conduites rapidement dans l'intérêt du pays. C'est autre chose. Ça pourrait tout à fait se décomposer, cette coalition, face à des décisions énergiques, rapides, claires.
Une autre réalité, c'est pas fatal, une autre réalité, on le rappelle depuis le début de cette émission, vous avez été en charge des affaires étrangères, donc de l'Europe. Comment voyez-vous que, parmi les pays européens, l'adhésion à l'idée européenne soit en régression, y compris évidemment en France, où le mouvement populiste, le Royaume-Uni va voter. Il y avait un sens de l'histoire, là aussi, on a l'impression que cette adhésion fait marche arrière.
Enfin, ça a toujours été conduit par des petites élites, hein, l'idée européenne, très bien inspirée, comprise, soutenue, etc. Mais attention à un contresens, si je puis me permettre, linguistique. On a tendance ces dernières années à qualifier d'eurosceptique les euros hostiles.
C'est vrai.
À mon avis, c'est pas les mêmes et ça n'appelle pas le même traitement.
C'est vrai.
Les euros hostiles pour des raisons vraiment idéologiques fortes. Marine Le Pen, elle est euro hostile, elle n'est pas eurosceptique. Mélenchon, il est euro hostile. Le mouvement en Grande-Bretagne, il est euro hostile. Ouais. Le petit parti qui se développe, la contre l'euro en Allemagne, il est euro hostile. Les eurosceptiques, c'est tout le monde. C'est à peu près tout le monde, puisqu'il y a 60% d'abstentionnistes aux élections européennes. Mmh. Les vrais Européens, très très intégrationnistes, fédéralistes, qu'on peut lire des fois dans les journaux, il y a 1% des gens, quoi. Ouais, en gros, ouais. Donc la majorité est eurosceptique. Moi, je pense que les eurosceptiques, tels que je les définis, ils sont tout à fait récupérables dans ce projet, si on leur montre que le développement de l'idée européenne ne va pas se faire au détriment de ce qu'ils ont gardé comme souveraineté. Mmh. Et là, la propagande pro-européenne, encore une fois sympathique, bien inspirée, tout ce qu'on veut, mais à mon avis, a fait des dégâts atroces, parce que elle a consisté à ridiculiser les gens qui étaient attachés à leur patrie, leur identité, leur langue, leur truc, bon, tout ça, en disant, mais c'est nul, tout ça, c'est terminé, l'État-nation, c'est nul, maintenant, c'est l'Europe. Les gens se sont crispés là-dessus, ils veulent garder ça. Donc, si on reparle avec la sagesse qu'avait Jacques Delors, fédération d'État-nation, dans 50 ans, il y a toujours l'Allemagne. Il y a toujours la France, le Portugal, la Suède, etc. Ça sera jamais les États-Unis, puisque les Américains, pour faire les États-Unis, ils ont rassemblé des Américains. Ils ont payé à réconcilier le vieux peuple du Connecticut avec le vieux peuple du Rhode Island. C'est complètement différent. C'est original, c'est génial ce qui a été fait. Si on parlait autrement, avec des objectifs précis, et Juncker a raison de dire qu'il faut que la Commission se concentre sur l'essentiel, subsidiarité, Delors le disait aussi, au lieu de se mêler de tout le temps, en exaspérant des tas de braves gens qui deviennent euro-allergiques pour des raisons bêtes. Bon, si on parlait comme ça quelques années, je suis convaincu qu'une grosse majorité des eurosceptiques d'aujourd'hui rejoint l'idée européenne.
Oui, parce que ce que vous décrivez, en fait, dans La France au défi, c'est une Europe qui est dans une impasse par rapport au peuple.
Oui.
Vous dites
oui.
Qu'en fait, voilà, elle ne parle pas au peuple. Mais est-ce que vous pensez qu'entre la commission Juncker et la commission d'avant, il y a un petit progrès?
Oui, il y a un changement de ton.
Message.
Il y a un changement de ton.
Et dans l'action?
On va voir, c'est au début. Mais il y a un changement de ton. Et on va se concentrer sur l'essentiel. Notre vocation n'est pas d'aller réglementer dans le détail de façon folle chaque chose, ce que même Washington ne ferait pas pour un État américain, vous voyez. Donc, je trouve que c'est pas mal. Mais les esprits ont évolué. Vous savez, des très grands Européens, comme Jacques Delors que j'ai cité, mais Valéry Giscard d'Estaing, Helmut Schmidt, ils disent aujourd'hui, pour le contrôle démocratique de la zone euro, il faut intégrer les parlements nationaux. Eux qui ont créé l'élection du Parlement européen au suffrage universel, ils ne disent pas qu'il faut passer que par là. Mmh. Et donc, il faut être un peu raisonnable. On voit bien que les peuples sont contents d'être en paix, tout ça, dans l'Europe moderne, c'est formidable. Mais ils veulent pas qu'on les dévore, qu'on les cannibalise. Mmh. Et ils veulent pas qu'on les insulte, sauf parce qu'ils sont attachés à leur identité propre. Faut se détendre sur tout ça. Et plus on se détendra, et plus on parlera comme ça, moins le Front National aura de combustible. À mon avis, sur ce sujet.
Nous verrons précisément.
Enfin, c'est mon avis.
Dans 15 jours, sur les antennes de RFI, sur celle de TV5, à la lecture du Monde, si on on aurait ainsi privé de carburant le Front National en France.
Pas dans les 15 jours. Non.
C'est dans les élections départementales sont dans 15 jours. On aura évidemment peut-être un premier regard. Merci d'avoir été avec nous, Hubert Védrine. Je rappelle le titre de votre livre, La France au défi. Merci pour ce tour du monde, l'actualité. Excellente suite de programme sur les antennes de RFI, de TV5 et dans les colonnes du monde également. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'International.